Shall we just pray together?
Alors, nous voulons prier ensemble.
We commit this time once again into your hands, Heavenly Father.
Seigneur, nous te remettons ces instants encore une fois, Père Céleste. Nous nous approchons de Noël et de cette merveilleuse célébration. Lorsque ton Fils est venu sur terre, venu parmi nous dans ce monde si sombre. Il est venu pour apporter le salut à un groupe d'humains perdus. Père Céleste, nous te prions que tu puisses être présent. Seigneur, descends et sois parmi nous de nouveau. Cela, nous le demandons au nom de notre cher Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors, mes amis, bien que ce ne soit pas encore Noël, je pensais que je pouvais aborder cette question de Noël, ce thème. Je désire Je voulais considérer le Noël à la lumière de la vie par la foi. Quelle différence cela fait dans notre foi comparativement à un rêve? La personne qui vit par la foi ne vit pas comme dans un rêve. Un homme qui vit par la foi est un homme qui vit dans la réalité, qui a bien les deux pieds sur terre. Alors, lisons dans Luc, chapitre 2, verset 1. Donc Luc, Évangile de Luc, chapitre 2, verset 1. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans la localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée qui attendait un enfant. Verset 6. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Ensuite, nous pouvons aller au verset 14. Voilà ce que les anges ont dit. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Alors, nous allons lire jusque-là pour l'instant. Nous lirons un peu plus tard. Mes amis, le monde a toujours la tendance de vouloir vivre dans un rêve. Je suis reconnaissant pour le témoignage que nous venons d'entendre, parce que c'est la démonstration que celui qui vit par la foi fait face à la réalité, à la vraie, la véritable réalité de sa propre vie. Vivre par la foi ne veut pas dire que tu échappes à la réalité. Au contraire, bien sûr. La vie par la foi te fait vivre, te fait faire face à la réalité de la vie. Mais même si le monde va célébrer Noël, cela paraît être toujours, et cela nous est toujours présenté comme un rêve, ou comme un conte. Oh, cette scène de Marie, Joseph et le bébé. Et alors, vous avez souvent des anges qui ont un regard attendri sur la scène. Et vous avez les bergers qui sont là, agenouillés, et qui contemplent et qui adorent le Seigneur Jésus. Et alors, vous regardez, le bébé est couché dans de la paille bien fraîche et toute propre. Et Joseph est présenté comme un bon père costaud qui est là pour protéger et surveiller sa famille. Et l'enfant est souvent dépeint comme un enfant, certes frêle, mais qui a déjà la puissance de Dieu. Et là, vous avez ensuite une auréole sur la tête de Marie. Et peut-être, vous voyez dans le fond la lune qui se lève dans le ciel étoilé. Mais ce n'était pas la réalité des choses. La réalité était une jeune fille enceinte avant le mariage, au travers ou par l'action du Saint-Esprit, et qui s'est mariée avec Joseph. Joseph a très probablement été écrasé ou défait par la nouvelle. Mais un ange est venu, lui apparu, et lui a donné la foi. C'était le temps où l'enfant devait naître. Mais Israël était dirigé par un dirigeant cruel qui avait une main de fer sur ce pays. Et c'est à ce moment-là même que ce dirigeant, cet empereur, les a leur a demandé d'aller se faire enregistrer à Bethléem. Et alors Joseph et Marie ont dû voyager environ 80 kilomètres avec Marie qui était enceinte pour aller se faire enregistrer. Et Joseph, qui était probablement défait ou qui était probablement écrasé par la nouvelle, a dû puiser dans la foi pour aller se faire enregistrer et emmener Marie à Bethléem. Et Joseph, en arrivant, n'avait pas d'hôtel dans lequel il avait pu réserver une chambre. Il n'avait pas de famille à Bethléem qui aurait pu les accueillir et les loger. Il a dû, en arrivant, commencer à chercher un endroit pour dormir. Alors, mes amis, si nous vivons par la foi, souvent les choses sont alors dans le pire état. Il n'y avait pas là de docteur qui a pu aider Marie à accoucher. Elle n'avait probablement pas de médicaments pour soulager ses douleurs de l'enfantement. Il n'y avait rien à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là même qu'elle a dû donner naissance à ce fils, Jésus. Et à cette époque, vous aviez ce roi fou, Hérode. Il était comme un Saddam Hussein de l'époque qui a fait tuer tous les enfants de moins de 2 ans. Ça, c'est voilà la réalité de Noël. Mais le monde ne nous présente pas ces choses. Le monde nous présente cela comme une merveilleuse histoire, un temps magnifique. Et les anges qui ont chanté, il est dit que la lumière a éclairé les chants alors que les anges ont chanté. Est-ce que vous réalisez vraiment ce qui s'est passé? Jésus n'est pas arrivé dans la gloire comme un roi qui se présente avec tous les hommages et les honneurs d'un roi qui se présente. Non, Christ est arrivé Jésus est venu dans un monde sombre, ténébreux, où tous d'entre nous étions perdus. Voilà la réalité de Noël. Jésus est venu dans ce monde, dans un monde plein de souffrance, dans un monde plein de haine, plein de colère, plein de jalousie, de paresse, de cœur brisé, de pleurs, de larmes. Et Jésus s'est présenté dans cette forêt sombre afin de venir à notre côté pour marcher dans cette forêt sombre, et de nous conduire pas après pas dans cette forêt sombre. Voilà donc quelque chose qui est bien différent que lorsque tu vis dans un rêve. Si tu vis dans un rêve, alors tu ne regardes plus à Dieu. Tu veux à tout prix éviter d'être impopulaire. Tu veux à tout prix ne pas être différent des autres. Tu ne veux pas être considéré comme différent. Et tu rejoins alors, tu te complais dans la pensée du monde, la manière de penser du monde. Durant la conférence de jeûne, le thème a été la vie de Joseph. Joseph a été vendu par ses propres frères. Alors, laissez-moi vous décrire ce que serait la vie d'un homme qui vit dans un rêve, guidé, conduit par ses propres émotions. Si Joseph n'avait pas vécu dans la réalité de sa vie, s'il n'avait pas réalisé le fait qu'il soit vendu par ses frères parce que Dieu a un but, un objectif avec sa vie, alors laissez-moi vous dire ce que aurait été sa réaction à Joseph. Il aurait dit: Joseph aurait alors dit probablement: ah, mais attends, ces Ismaélites qui m'ont emmené, qui me vendent comme esclave, alors je vais faire d'eux mes amis. Parce que quoi? Mais propres frères, ceux qui sont mon sang et ma chair, ce sont eux-mêmes qui m'ont vendu. Alors, est-ce que vous imaginez, est-ce que vous réalisez combien de jeunes gens ont cette mentalité? S'ils ne sont pas traités de la bonne manière comme ils attendent, alors ils disent: si c'est comme ça, je vais rejoindre les Ismaélites qui sont pourtant les ennemis de Isaac et de Jacob. Ah, eux au moins, ils m'acceptent comme je suis. Alors, laissez-moi rejoindre le monde. Est-ce que vous voyez la manière dont je suis traité par mes propres frères, par ceux de ma propre race? Et vous savez quoi, je vais même aller plus loin. Je vais même me marier avec une fille ismaélite. Parce que ces Ismaélites, voilà mon nouveau peuple, voilà ma nouvelle famille. Voilà mes nouveaux amis. Oui, j'ai été vendu comme esclave. Mais au moins, ils m'ont souhaité la bienvenue, ils m'ont pris avec eux, ils m'ont donné à manger et ils ont fait de moi un des leurs. Oh, comment on peut être aveugle, un jeune homme ou une jeune fille qui vit dans un rêve? Ceux-là même qu'il l'achète pour en faire un esclave, il va devenir ami avec eux. Il va préférer s'associer, se marier avec eux. Wow. Qu'est-ce que cela a-t-il comme but? À quoi sert-il de servir Dieu? De toute façon, je n'arrive à rien. Regarde les enfants de Dieu. Regarde la manière dont ils m'ont traité, dont ils me traitent. Je n'aime pas. Alors, si c'est comme ça, je veux aller dans le monde. Alors, mon ami, si cela est ta réaction, alors tu as laissé de côté le Dieu vivant et tu as abandonné le service du Dieu vivant pour ton propre confort. Et à cause de la haine dans ton cœur, une personne qui vit avec la haine dans le cœur n'a pas l'esprit sobre, n'a pas l'esprit clair. Il ne voit plus, il ne pense plus de manière claire. Alors, si tu es assis là avec de la haine dans ton cœur, alors tu n'as plus un esprit, une pensée claire. Cette haine, c'est comme s'il y a des vapeurs qui montent et qui mettent un brouillard dans ton esprit, dans ton cerveau. C'est ce que Karl Marx a écrit dans un de ses livres. Avant qu'il ne mette par écrit sa théorie sur le communisme, il a écrit: les vapeurs, les fumées de l'enfer montent et brouillent mon esprit. Et alors, il a enseigné aux autres à haïr les riches, et à commencer un système où il n'y aurait plus de riches, où, selon lui, plus seulement quelques-uns sont riches, mais le résultat, c'est que tout le monde était pauvre. Alors, laissez-moi continuer en vous donnant d'autres signes de la personne qui vit dans un rêve. Une histoire, l'histoire de deux jeunes frères, de deux frères juifs qui vivaient à New York. Alors, c'était deux frères dont le père était médecin. Tous les deux ont étudié et ont eu un diplôme de l'université. Et lorsque le père est décédé, leur vie a alors changé. Les frères se sont alors retirés. Ils ont commencé à vivre en marge du reste de la famille. Ils ont même cloué des planches en travers de la porte d'entrée de leur maison afin que personne ne puisse leur rendre visite. Alors voilà, un des premiers signes d'une personne qui a été attrapée, influencée par le diable à vivre dans un rêve. Il y a certaines parties de sa vie que la personne va murer, va commencer à fermer et avec la Mais ces choses que la personne ne voudra pas mettre à la lumière. Voilà, une pièce de mon cœur qui est fermée et personne n'a le droit de rentrer. Alors, mon ami, laisse-moi te poser la question. as-tu déjà cloué des planches au travers de la porte de certaines pièces de ton cœur? C'est le signe que tu as arrêté de vivre par la foi. Tu vis dans ton propre rêve. Et donc ses frères ont commencé à vivre seuls, isolés. Ils ont même arrêté l'eau, l'électricité de leur maison. Un des deux est alors devenu aveugle. Mais ils n'ont pas cherché de l'aide à l'extérieur de la maison. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde avait oublié même l'existence de cette famille Collier. En 1947, la police a eu un message. Quelqu'un est mort à cette adresse, dans cette maison. Alors, la police a essayé de rentrer dans la maison au travers de la porte d'entrée, mais il n'arrivait pas. Alors, voyez, si tu as fermé certaines pièces de ton cœur, même lorsqu'elle se présente pour t'aider, pour ouvrir, pour t'apporter de l'aide, alors tu ne vas même pas te laisser aider parce que c'est ta pièce secrète. Au final, la police a trouvé une fenêtre au premier étage où ils ont pu casser la vitre et pénétrer à l'intérieur de la maison. Et là, sur le lit, ils ont trouvé le corps du frère qui était mort. Celui, là même, qui était aveugle. Et sur le lit, donc, il y avait le corps, et ce corps avait, cet homme avait quelque chose entre ses mains. Ce n'était pas la Bible. Et dans ses mains, ils ont découvert un morceau ou un journal qui datait de 1922 et qui était pourtant un journal que lui-même n'arrivait pas, ne pouvait pas lire en raison de sa cécité. Et voilà ce à quoi elle s'est accrochée alors qu'il était en train de mourir. Voilà le signe d'un homme qui ne vit pas par la foi. De quelqu'un qui ne vit pas par la foi. Tu t'accroches à des choses de ce monde, au journal qui ne te sera d'aucune utilité dans l'éternité, pour l'éternité. Tu vas t'accrocher à Internet, à ton portable, en t'occupant à des choses qui ne sont d'aucune utilité, qui ne servent absolument à rien en regard de l'éternité. Voilà, je pense que cet homme, s'il est vivant, si c'était une histoire d'aujourd'hui, il aurait son portable entre les mains. Combien c'est pathétique! Combien c'est pathétique. Toi, mon ami, qui te préoccupe tant des choses de ce monde, est-ce que tu ne réalises pas qu'au final tu deviens un ennemi de Dieu? toi qui prends les coutumes, les traditions de ce monde. Est-ce que tu n'as pas réalisé que ces choses ne te seront d'aucune utilité pour aller au ciel un jour? Les choses pour lesquelles tu es attaché, accroché, peut-être cette pornographie auquel tu es tant attaché à regarder. Alors, rappelle-toi que ces choses ne te sera d'aucune utilité dans l'éternité. Cela n'a aucune valeur. Et pourtant, tu passes ton temps à ces choses. Et ces deux frères avaient hérité beaucoup d'argent de leur père, mais cela leur a été d'aucune utilité. Alors la police a commencé à chercher, à fouiller la maison. Alors écoutez cela. Il leur a fallu 3 semaines. Il leur a fallu 3 semaines pour creuser depuis le premier étage et pour arriver jusqu'à la porte d'entrée qui était au rez-de-chaussée. 3 semaines. Vous savez combien de déchets ils ont sorti de cette maison ? ⅓ tonnes de détritus et de déchets. Voilà ce qu'ils ont sorti de la maison. Des vieilles machines à laver, des vélos, toutes sortes de choses. Et toutes ces choses n'avaient aucune valeur, ne valaient rien. 140 tonnes. ⅓ kg de détritus qui ne valaient rien. Alors dis-moi, mon ami, combien de détritus, combien de déchets as-tu réuni, as-tu collecté dans ta vie ? Et pourquoi t'accroches-tu à ces choses ? Non. Est-ce que tu ne réalises pas que nous sommes sauvés par la foi ? Nous sommes sauvés par la foi, non pas en vivant dans un rêve. La foi qui m'amène à réaliser la réalité de ma vie. Comme nous l'avons entendu dans le témoignage juste avant. La réalité où je réalise, où je dois retourner et mettre en ordre là où j'ai mal agi, là où je dois restituer des choses. Peut-être toutes sortes de choses, mais qui sont la réalité de ta vie. Et par la foi, parce que tu as la foi en un Dieu vivant, alors tu viens et tu confesses ces choses et tu retournes et tu mets en ordre là où tu as mal agi et là pour ce que tu as fait. Mais devant la porte, voilà le pire. Ils ont découvert l'autre frère. Ce frère, le premier frère, a été écrasé par un piège qu'il avait lui-même bâti. Et il a été écrasé par un objet qu'il avait lui-même monter un système pour écraser celui qui tenterait de rentrer par la porte d'entrée. Et probablement, quelque chose a mal tourné, et peut-être au moment où il a monté ce piège, et cet objet lourd l'a écrasé lui-même. Et son frère aveugle était couché dans son lit, en haut, dans la chambre, et personne ne pouvait l'aider. Alors, combien de personnes ont croisé ton chemin, que Dieu a placé dans ton chemin pour que tu les amènes à Christ, pour que tu leur présentes le message de l'Évangile. Et ces personnes sont mortes parce que tu as été toi-même écrasé par tes propres peurs. Et peut-être tu penses, « Ah, un tel va me mettre du poison dans ma nourriture. » Et alors tu haïs cette personne et tu vas contre cette personne. Et tu ne sais même pas si c'est la réalité des choses, si c'est vrai. Et finalement, cette haine, cette rancune que tu as contre cette personne, qui peut-être cette personne est innocente, mais cette haine et cette rancune va t'écraser. Peut-être ta famille, ta mère qui te regarde, tes frères et sœurs qui ont besoin de toi, qui ont besoin que tu leur apportes l'Évangile. Eux sont laissés aveugles et mal nourris, sans nourriture. Et eux continuent de s'accrocher à leurs superstitions qui n'ont aucun pouvoir. Peut-être tu dis, « Ah, je m'en... » fiche, ou je ne me préoccupe pas de savoir si tu adores une vraie idole ou l'idole du monde. Mais Dieu doit te libérer de cela. Parce que, à moins que tu ne changes, alors ton entourage, ta famille mourra sans que personne n'ait pu les nourrir, sans que toi, tu aies pu les nourrir. Combien d'entre nous sommes assis ici ce matin en étant coupables devant Dieu parce que certains de nos amis et de membres de notre famille sont morts? Parce que nous étions préoccupés avec notre propre rêve, que nous vivions dans nos propres rêves et non pas dans la réalité. Alors laissez-moi conclure. Le temps est passé. Alors je vais juste vous nommer différents points qui montrent quand quelqu'un vit dans un rêve. Être sobre, c'est d'avoir la perspective divine sur les événements. Et les amis peuvent être une occasion ou d'enlever cette sobriété. Au travers d'Internet, tu peux être amené à prendre contact avec les gens les plus bizarres qui existent sur Terre. Peut-être même tu es confronté ou tu et éveillés à des pratiques sexuelles bizarres que on ne veut même pas mentionner. Peut-être il s'agit de 5 personnes sur Terre, sur les milliards qu'il y a. Mais ils ont leur propre site internet. Et alors tu vas et tu lis ces choses. Peut-être tu lis et tu vas voir ces formes de pornographie bizarres et malades. Et peut-être même tu en arrives à croire que cela vient de Dieu. Une autre chose qui t'empêche d'être sobre. L'argent. La personne qui vit en faisant confiance, en comptant sur son argent, est quelqu'un qui n'est pas sobre. Encore un autre point. Se marier avec une jeune personne. Malheureusement, à cause du temps, je passe d'un point à l'autre rapidement. Un autre point qui peut te faire perdre ta sobriété et l'orgueil. Mes frères et sœurs, si tu vis de manière orgueilleuse, alors tu vis dans un rêve. C'est pourquoi Paul a écrit dans Romains 12, verset 3. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. Ne soyez pas prétentieux. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même. Alors mes amis, nous vivons Nous avons vécu des temps où nous avons pu être témoins de comment certaines personnes ont échoué, se sont échouées spirituellement parce qu'ils ont eu une image trop importante d'être d'eux-mêmes. Donc dans la version, il est dit « Ayez une sage appréciation de vous-même ». En anglais, il dit « N'ayez pas une trop haute estime de vous-même ». Dans la version amplifiée, il est dit « N'ayez pas une vision exagérée de l'importance que vous avez. » Mais d'évaluer sa conduite avec un jugement sobre. Chacun, selon la mesure que Dieu a donné à chacun. Donc chacun selon la part que Dieu lui a donnée dans son œuvre régie par la foi. Alors, pose-toi la question. Pourquoi est-ce que tu es irrité quand quelqu'un passe devant toi dans la queue, au magasin, ou quelqu'un te fait une queue de poisson sur la route? Peut-être tu arrives au péage et quelqu'un te passe devant au moment d'arriver dans la file. Ou si le pasteur te marche sur les doigts de pied. Alors sache que si tu t'irrites, si tu es contrarié par ces situations, c'est que tu as une trop haute estime de toi-même. Une personne orgueilleuse vit dans les rêves, dans un rêve. Et Christ est venu dans ce monde pour ceux et celles qui sont prêts à laisser tomber leurs rêves et à vivre dans la réalité. Alors, je voudrais conclure en lisant un passage dans Luc 12. Luc 12, verset 49. Jésus qui parle, « Je suis venu jeter un feu sur la terre. Oh, comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. » Voilà l'esprit avec lequel Jésus est venu dans ce monde. Verset suivant. Mais il y a un baptême que je dois recevoir. Quelle angoisse est la mienne, tant que je ne l'ai pas reçu. Pensez-vous que je sois venu pour apporter la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais la division. En effet, à partir de maintenant, s'il y a 5 personnes dans une famille, elles seront divisées contre 3 contre 2, 2 contre 3. Le père sera contre le fils contre son père, la mère contre sa fille, la fille contre sa mère, la belle-mère contre sa belle-fille et la belle-fille contre sa belle-mère. Voilà ce pourquoi ce bébé est venu dans ce monde, ce bébé qui est né dans cette étable. Cet enfant est né, il est venu pour apporter ce feu. Et nous remercions le Seigneur que nous avons encore parmi nous aujourd'hui des témoins de ce feu que le Seigneur a envoyé, des personnes qui sont restées fidèles toutes ces années. Claire Lowe, Pasteur Stegen, nous te remercions pour ton exemple. Nous te respectons et nous prions que le Seigneur nous accorde la grâce de lui rester fidèle. Que nous puissions repartir et vivre par la foi, quel qu'en soit le coût. En refusant de vivre et de célébrer Noël à la manière du monde.
Thank you so much for the Lord's word.
Merci beaucoup pour cette parole. Que ce Noël soit un Noël différent. Que cet enfant qui est venu, que tu puisses expérimenter cela, cet enfant d'une nouvelle manière. Que ce feu que cet enfant est venu apporter, que ce feu puisse brûler dans nos cœurs. Si ce feu brûle, alors notre vie est là, est faite pour être une bénédiction pour les autres, pour être, servir les autres. Non pas pour nous servir, mais pour servir le royaume de Dieu. Nous allons conclure par la prière. Si nous pouvons demander à Claire Lowe de prier.
We thank you, Lord, that
Seigneur, nous te remercions. Te remercions que nous avons pu apporter gloire à ton nom. Nous te prions que tu puisses continuer à œuvrer, tu puisses œuvrer par-dessus, au-delà même de ce que nous pouvons penser ou prier. Agis de manière qui dépasse notre entendement. Tout cela, demandons en ton nom, pour ta gloire. Amen.